Vincent Message, bonsoir.
Bonsoir à vous.
L'auteur de L'éveilleur aux éditions du Seuil, qui est sorti donc pour cette rentrée littéraire, un grand livre de 630 pages qui coûte 22 euros, que vous trouvez actuellement en librairie. C'est la grande sensation de cette rentrée littéraire, et là je dois dire que c'est vraiment à juste titre, puisque quand j'en ai lu les premières pages, au début du mois de juillet, j'étais vraiment réellement très impressionné également par les dernières pages. Donc vraiment un livre qui m'a saisi. Alors Vincent Message, j'avais envie de vous poser cette première question un peu générale pour commencer à entrer dans votre fiction. Quel est le sens du titre L'éveilleur?
Alors, le roman s'appelle L'Éveilleur parce que c'est un roman sur des gens qui s'occupent de la nuit. Il y a plusieurs personnages qui ont un rapport particulier avec l'univers nocturne. Tout d'abord, le personnage du meurtrier dont on explore l'univers mental dans le roman et qui occupe une fonction de veilleur de nuit lorsque l'intrigue débute. Et puis ensuite, les deux enquêteurs qui vont se pencher sur son cas après qu'il a commis ce meurtre de rue. Un policier qui s'appelle Rilviero et qui, donc par sa profession, a affaire au monde de la criminalité et cherche à maintenir l'équilibre de la société. Et puis un psychiatre, Tram Freund, qui lui cherche toujours à restaurer l'équilibre de ses patients et se préoccupe de l'univers mental, donc de gens qui sont malades. Et donc qui efface les plus sombres du psychisme humain.
Est-ce que l'éveilleur n'est pas aussi pour dire que ce personnage, Oscar Nexus, donc le meurtrier, est lui-même un grand, grand veilleur, un grand dormeur onirique, hein?
Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a un rythme de vie qui est décalé par rapport à la moyenne des gens, puisque comme il travaille de nuit dans un complexe immobilier, il passe ses journées à dormir. Et lorsque l'enquête sur lui en vient à se développer, les Tramfroy et Rilviero se rendent compte que c'est un dormeur pathologique, une sorte de rêveur en série qui reprend à chaque fois qu'il s'endort le fil du même rêve. Et ce rêve qui est là pour, enfin qu'il fabrique, que son psychisme fabrique pour compenser le caractère très vide et très morne de sa vie réelle, occupe tout un pan du roman.
Pour continuer dans les généralités, moi j'ai quelque chose qui m'a stupéfié, c'était l'origine intellectuelle.
Très mal, là, Dominique.
Voilà, si je vous parle comme ça va mieux?
Ça va un peu mieux. Oui.
Voilà, excusez-moi. J'aimerais connaître l'origine intellectuelle de ce livre. Pourquoi cette histoire qui naît comme ça? J'imagine qu'il y a une origine intellectuelle qui s'est fabriquée petit à petit, fil par fil, que vous aviez peut-être voulu faire plusieurs fictions et que vous avez tout regroupé en une seule.
En fait, le roman prend vraiment naissance dans ma tête lorsque deux idées se rejoignent. La première idée, d'ailleurs c'est moins une idée qu'une scène qui m'apparaît, et c'est cette scène d'un homme qui descend dans la rue un matin et qui tue trois personnes. Alors, pour des raisons qui ne sont pas entièrement rationnelles, et donc que je ne peux pas tout à fait expliquer, cette scène-là me fascine. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Le fait divers, c'est d'abord la forme d'action violente qui subsiste dans notre société, alors que on connaît plus les guerres qui sont souvent sur des théâtres d'opérations lointains, etc. Et cette forme de violence-là peut encore nous tomber dessus, nous atteindre en personne. Et donc, je commence à me dire il serait intéressant de développer une figure de meurtrier qui commet un acte sur des anonymes dans la rue. Et en réfléchissant à ce que pourrait être ce personnage, je me rends compte que souvent, les meurtriers de ce type sont des gens qui fonctionnent selon une logique assez différente de la nôtre, presque comme s'ils vivaient dans une autre dimension, dans un autre monde. D'où l'idée que Nexus, le meurtrier, passerait énormément de temps dans du virtuel, en l'occurrence dans le rêve, et que ce serait dans son univers onirique que pourrait se trouver, se dégager l'explication de son geste de violence. Et voilà, donc c'est au moment où je décide de joindre ces deux thèmes, le thème du meurtre dans la rue, dans une société moderne, et puis le thème de la vie dans le rêve ou la vie virtuelle, que le roman commence à prendre forme.
Et est-ce que vous aviez tout de suite envie de jouer avec les genres littéraires? Parce que L'Éveilleur est à la fois presque une sorte de polar, mais je dis bien presque, et c'est ça qui va faire toute la différence. Mmh. Et à la fois, il a vraiment à voir avec le genre de la science-fiction, ou plutôt du fantastique. C'est ce monde qui est inventé, ce monde onirique inventé par Nexus. Vous jouez vraiment avec les genres.
Oui, alors le propos, je pense, quand j'ai conçu le roman, était d'essayer de lutter contre ce que j'appellerais une littérature de classe, où en France, on a tendance à distinguer entre la littérature générale, qui est considérée comme très noble, et puis des genres qui sont souvent un peu dédaignés, comme le policier ou la science-fiction, auxquels d'ailleurs on a, depuis quelques décennies maintenant, réservé des rayonnages spéciaux en librairie. Et voilà, ces deux genres m'intéressaient, d'abord parce que on peut se demander pourquoi ils fascinent autant. Ils se sont énormément développés depuis un siècle, ils passionnent des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde, et quelques-uns des grands succès qui sont fictionnels de ces dernières années ressortis de ces genres-là. Je pense à Harry Potter, par exemple, d'un côté, à la trilogie Millennium. Bon, j'avais déjà conçu le roman quand je vois ça, mais ça tourne au phénomène de société, et ce phénomène de société-là m'intéresse. Pourquoi est-ce que le policier et la science-fiction fascinent, exercent cet attrait? Et mon idée était de jouer avec les codes de ces genres, sans écrire un polar, sans écrire un vrai polar ni un roman de science-fiction, mais de revenir un peu à ce qu'il y a à l'œuvre derrière ces genres, et d'en faire quelque chose de plus littéraire, de peut-être de plus travaillé du point de vue du style, etc. Donc, parce que pour moi, c'est des genres qui m'intéressent énormément, et en même temps que je trouve un peu limités. J'aime dans les romans policiers leur énergie narrative formidable, le fait qu'ils demandent une grande rigueur de construction. Hein, c'est aussi ce que pensait Borges, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Le roman policier fonctionne comme une architecture très précise. Il faut que chaque pièce soit à sa place pour que ça marche. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. En revanche, c'est vrai que souvent, je trouve que parfois, ces romans ne racontent qu'une histoire de plus, une enquête de plus, un cadavre de plus, avec des personnages qui sont parfois un peu stéréotypés. Donc là, l'idée était que mes deux enquêteurs, Tom Freund et Rilviro, policier et psychiatre, mèneraient une sorte de double enquête et prendraient aussi le temps de s'interroger sur leurs gestes d'enquêteur. C'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui nous attire vers cette figure de meurtrier dont on se demande s'il est fou ou pas. Qu'est-ce qui, en quoi consiste notre métier, en quoi consiste ce rapport à la nuit que nous avons.
Vous dites que vous jouez avec les codes du policier, de la science-fiction. J'ai l'impression que vous jouez avec beaucoup d'autres codes, vous jouez beaucoup dans cette fiction. C'est presque une fiction de la jouissance, de la surjouissance. Dans la trame, vous y mettez beaucoup, beaucoup d'éléments, de nombreuses disciplines du savoir. Notamment, j'ai l'impression que tout est double, voire triple, et qu'une sorte de lecture linéaire, on échapperait à l'essentiel de la fiction presque. Il y a une fabrication comme ça, maison d'autres fictions.
Oui, en tout cas, il y a la volonté de que le roman s'empare de nouveau de champs de savoir qu'il a un peu délaissé. Au 19e, le roman faisait tout, en fait, hein, parce que on était dans une société moins spécialisée, et donc des choses qui, aujourd'hui, sont de l'ordre du discours du journaliste ou de sociologique, scientifique, etc., étaient repris par des romanciers qui écrivaient, du coup, des sommes encyclopédiques. C'était le cas de Balzac, c'était le cas de bien d'autres romanciers en France. Et puis c'est vrai que le roman a connu une crise au moment où d'autres discours en sciences humaines notamment se sont développés, et il a eu tendance, face à aussi la concurrence de nouveaux médias, le cinéma, etc., à se replier de plus en plus vers le domaine de l'intime, de la vie privée, de ce que j'appellerais l'expérience commune, c'est-à-dire ce que tout le monde dans notre société vit et connaît, des histoires de famille, des histoires sentimentales, etc. Et je trouvais ça un peu dommage qu'on ne puisse plus utiliser le roman comme un outil de connaissance, parce qu'il apporte tout de même, par rapport à d'autres discours de type scientifique, une vraie plus-value. Il personnifie, il permet d'intégrer, de montrer non pas juste un savoir, mais des individus dans leur rapport au savoir. Alors dans le roman, par exemple, plutôt que d'avoir, on a des choses par exemple sur la psychiatrie, mais incarné à travers la figure d'un psychiatre qui a eu un parcours personnel qui l'a mené à fréquenter les antipsychiatres qui voulaient réformer cette institution, ou encore à s'intéresser à la psychanalyse, etc. Je pense que ce pouvoir de personnification du roman est très intéressant. Et donc, par rapport à ce qui peut se faire en littérature française ces dernières années, j'avais envie de réactiver ça, que des savoirs se retrouvent dans le roman, transformés, littérarisés, hein, devenus romanesques, mais qu'ils soient présents. Et notamment, le livre parle beaucoup de sommeil. Je pensais qu'un apport d'un livre qui est écrit au début du XXIe siècle sur le sommeil, ça pouvait être d'intégrer l'approche scientifique, les approches scientifiques les plus récentes par rapport au phénomène du sommeil. Donc il y a un chapitre où les deux enquêteurs, Tramfroen et Riviero, font subir à Nexus un examen qui s'appelle une polysomnigraphie, où on étudie son activité électrique pendant le sommeil et on cherche à savoir ce qui se passe exactement dans sa tête quand il dort. Et ça, le rapport scientifique au sommeil, c'était quelque chose qui m'intéressait.
Vous parlez de discipline, on pourrait parler de discipline architecturale, par exemple, et j'ai l'impression que votre fiction, dans de nombreux points, est liée à l'art contemporain ou à ses installations conceptuelles. Tout d'abord, l'architecture de l'ANEF. Cette ANEF, ce sorte de bâtiment en forme de bateau qu'un architecte a légué à Tramfroen. Parlez-nous de l'ANEF, comment vous est venue l'ANEF? Vous êtes-vous inspiré de travaux d'architecture contemporain?
Alors l'ANEF est effectivement une annexe de la clinique que dirige Tramfroen, le personnage du psychiatre, et où les deux hommes décident de transférer Nexus pour se consacrer à son cas à plein temps pendant quelques mois. Et donc, c'est une sorte de bateau le paradoxe c'est que c'est un bateau de pierre dans la montagne, assez isolé, et qui a été construit par un architecte d'avant-garde qui s'appelle Daniel Sirenaï. Et selon un principe assez particulier. L'idée était de faire un bâtiment autonome, c'est-à-dire qui puisse être une sorte de microcosme indépendant du monde extérieur. Et du coup, cet architecte a pensé il faudrait qu'il y ait des pièces modulables, c'est-à-dire que ce bateau, qui est assez grand, où il y a de nombreuses pièces dans les cales, représente un peu toutes les parties du monde, ou tous les arts, et qu'en passant d'une pièce à l'autre, on passe d'un univers mental à l'autre. Pour moi, c'est aussi une sorte de positionnement que j'ai décidé d'adopter par rapport à plusieurs traditions. Il y a une sorte de confluence de deux choses. La première, c'est l'idée de la nef des fous, qui est un conte populaire allemand du Moyen-Âge, et qui est représenté notamment en tableau par Bosch. Et je me disais, Tramfroen devrait diriger une clinique avec donc des fous, des gens atteints de maladies mentales, qui serait comme une sorte de bateau. Donc il y avait une première racine là de cette idée. Et puis la deuxième, c'est cette nouvelle de Borges qui s'appelle l'Aleph, donc avec un L, et où l'Aleph est une sorte de talisman où on peut adopter un point de vue global sur le monde, c'est-à-dire où on voit simultanément plusieurs lieux à des points différents du globe, plusieurs époques, etc. Il y a une fusion pour moi, j'ai retravaillé ces deux influences-là, et c'est de la fusion de ces influences qu'est née l'idée de ce bâtiment. Ce qui était intéressant aussi dans l'idée d'enfermer le criminel Nexus dans ce bâtiment, c'était qu'il allait pouvoir être soumis à une observation, hein, et que coupé du monde extérieur, ces trois hommes allaient vivre une sorte de huis clos, enfermés dans leur propre univers mental, et notamment dans l'univers onirique du tueur qui se met peu à peu à raconter ses rêves.
C'est bien ce qui peut sembler qu'il y a une sorte de théorie des noms dans votre livre, des noms de personnes, des noms de lieux, des noms de bâtiments. J'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de jeux, énormément de références cachées. Là, vous venez juste de m'apprendre que la nef, voilà, ça vient de la nef des fous de Bosch et de la nef de Borges. J'imagine que la plupart des noms sont truqués également.
Oui, alors sans que, disons que par des noms qui ne sont pas des noms réalistes, je voulais donner un signal très rapide au lecteur. On n'est pas dans un roman réaliste. Pour moi, il y a deux types de romans. Il y a des romans qui prétendent coller de près au réel et où les personnages vont avoir des noms, je dirais, sociologiquement crédibles. Ils vont s'appeler Julien Sorel chez Stendhal. Ils vont s'appeler
Madame Bovary, etc. Et puis, il y a des romans où, au contraire, les personnages sont moins des individus, avec donc une véracité psychologique, une situation dans la société, mais des figures où se cristallisent des choses qui les dépassent, des conflits de valeurs, une situation existentielle, etc. Et dans ces romans-là, les personnages ont des noms qui sont tout à fait incroyables. Ils s'appellent Don Quichotte, ils s'appellent K chez Kafka, ils s'appellent Stephen Dedalus chez Joyce. Et c'est plutôt de ce côté-là que je me situe. C'est pour ça que souvent, les noms qui me sont venus par stratification comme ça de d'idées que j'avais, d'influences diverses. Et puis j'en ai fait autre chose, évidemment.
Et j'aimerais revenir sur le lien entre votre livre et...
Je vous entends de nouveau très bas, en
fait. Voilà. Là, ça va mieux ?
Voilà. À peine.
Karl, oui. Peux-tu augmenter mon niveau sonore du micro, s'il te plaît ? Voilà. Impeccable. Là, ça va mieux ?
Ça va un petit peu mieux.
Voilà. Je voulais revenir sur cette question de la liaison de votre fiction avec l'art contemporain. J'avais ce deuxième exemple, donc il y avait ce premier exemple de la nef, et j'avais ce deuxième exemple de cette photo de Kelly Park, cette photo que vous dites que Kelly Park a pris de Nexus juste après qu'il ait tué ses victimes, et une fois qu'il s'était endormi dessus. Pouvez-vous nous parler de ce contexte et de ce qui ce personnage de Kelly Park, d'où c'est qu'elle vient encore, celle-ci ?
Oui, alors le point de départ, c'est l'idée qu'un meurtre qui intervient aujourd'hui en pleine rue est forcément n'est pas un acte qui reste sans témoin, mais un acte qui va être médiatisé, dont les images vont circuler en boucle et dont il va y avoir plusieurs types d'images. Donc, outre tous les témoins qui ont pu voir de leurs yeux Nexus abattre ces trois personnes dans la rue puis s'endormir sur leur cadavre, on a des caméras de surveillance qui traînaient là et qui ont pris des fragments de la scène, et on a cette photographe qui devait couvrir ce matin-là le vernissage d'une exposition et qui s'est dit, voilà, je tiens un reportage, et a pris une série de photos. J'avais envie de... Donc, toutes ces choses, tous ces événements se déroulent dans une ville imaginaire, mais qui est une grande ville moderne qui s'appelle Rexon, et j'avais envie qu'elle soit complète, donc de lui donner un fort caractère. Pour ça, il faut qu'elle ait ses peintres, ses architectes, ses photographes. Donc Kelly Park est photographe, et elle va participer par sa photo, qui fait la couverture des magazines dans toute la ville, à rendre l'acte de Nexus assez mythique. Puisque le meurtre se déroule de la façon suivante, les cadavres s'écroulent les uns sur les autres et Nexus vient s'écrouler lui aussi au sommet. On a donc quelque chose qui ressemble à une sorte de tas de corps, de charniers, et Kelly Park en profite. Et dans l'arrière-plan, elle arrive même à capter une sorte de contre-jour et puis la silhouette d'un bâtiment qui est un hommage aux victimes d'une déportation. Donc, elle établit ainsi un lien dans cette photo entre la violence historique, la violence d'État, telle qu'elle a pu avoir lieu lors des déportations ou des épurations ethniques au XXe, et puis la violence de rue, celle qui nous fait peur aujourd'hui, celle qui donne lieu à toutes ces fictions policières qui envahissent notre univers. Avec aussi quelque chose d'un petit peu gênant et qui met les enquêteurs mal à l'aise, notamment Riviero mal à l'aise, c'est cette complaisance, cette fascination pour la mort. Il y a quelque chose de macabre dans cette photo, une esthétisation de la violence qui est très gênante. Et je pense que de la même façon, il y a un plaisir un peu... Enfin, on a pu avoir un plaisir un peu voyeur à voir certaines images du 11 septembre, où on peut encore en avoir certaines images de catastrophes naturelles, d'Abu Ghraib. Donc, avec cette photographe, je voulais montrer l'ambiguïté de ce geste artistique quand il colle à l'actualité, et à l'actualité la plus sinistre.
Est-ce que cette photo existe ?
Non, alors là, j'ai pas du tout... c'est une pure fiction. Je n'ai pas du tout de sources qui m'ont guidé vers l'élaboration de cette photo. Non, non.
Mais elle aurait très bien pu exister. Du coup, vous êtes quasiment inventeur de cette scène, et vous êtes quasiment inventeur de cette photographie.
Oui, alors j'aime bien effectivement l'idée qu'un roman se peuple de personnages, mais il se peuple aussi d'œuvres d'art. Donc quand, dans les artistes de Rexon, que ce soit Kelly Park qui est photographe ou un peintre qui s'appelle Ernst Bianco, ont une œuvre, et cette œuvre, je la décris, et je la décris parfois suffisamment en détail pour que un artiste contemporain puisse ouvrir le livre, l'éveilleur, prendre le texte et essayer de voir ce que ça pourrait donner sur une toile ou dans une photo. C'est quelque chose qui m'amuse, le fait de toucher comme ça à plusieurs arts et de les lier dans le roman.
C'est ce que vous disiez au tout début, c'est que le roman doit s'emparer un peu de tous les champs du savoir.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Alors j'aimerais qu'on vienne à la question de la langue, de votre syntaxe, où on trouve des éléments assez effarants. Vous utilisez des jeux de mots souvent subtils, des jeux de va-et-vient, des néologismes. Vous dites, dans le roman, l'altération de la langue est souvent liée au point de vue qu'adopte le récit. J'ai juste prendre un petit exemple, j'ai juste vous lire un tout petit paragraphe. On est au petit matin. Riviero arpente le quai désert et tape du pied pour se réchauffer. Entrant en gare, la locomotive tranche le filet de brume qui se tient immobile au-dessus des rails et l'augmente de son nuage de vapeur. Absurde, elle marche à l'électricité. Donc, c'est Riviero, mal réveillé, qui préférerait se croire dans un western. Vous cassez plein de codes dans la syntaxe. Parlez-nous un peu de votre manière d'aborder la langue et qu'il y ait plusieurs points de vue comme ça, un peu simultanés. Vous en faites des bizarreries qui, à chaque fois, nous réveillent complètement en disant « Oh, mais c'est vrai, on est dans un livre ».
Oui, tout à fait. Alors, le but est bien de réveiller le lecteur. Mon ambition initiale, c'est que chaque phrase, ou en tout cas le plus de phrases possibles soient des événements, c'est-à-dire que au lieu que ça coule et que ce soit quelque chose de plat, de lisse, il y ait quelque chose dans la phrase, un élément qui surprenne le lecteur, quelque chose qu'il aurait lui dit différemment s'il devait en parler. Je pense que ça fait partie du rôle des écrivains d'essayer de dépoussiérer un peu les mots qu'on utilise pour dire le monde, parce que c'est une façon indirectement de changer le regard qu'on porte sur le monde. Après je ne le fais pas du tout avec systématisme, et c'est pour ça que la citation d'une interview que vous rappeliez, je disais que c'était lié effectivement au point de vue qu'adopte le récit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les personnages sont parfaitement lucides, parfaitement réveillés, on va avoir quelque chose de plus réaliste et peut-être de plus plat dans la façon dont le récit est organisé. Mais dès qu'ils ont un point de vue un peu divergent sur le réel, et ça nous arrive assez souvent, la syntaxe s'adapte à cela. Alors l'exemple le plus marquant, c'est évidemment le personnage de Nexus, puisque Nexus a eu une vie mentale très particulière, il vit dans une grande solitude, et il est atteint d'une sorte de maladie mentale. À partir de là, sa langue est marquée par des écarts avec la syntaxe telle qu'on la conçoit habituellement, avec la logique traditionnelle. Donc, Nexus peut inverser des éléments, voire former de nouveaux mots à partir de deux mots qui existent. J'essaye que les fous sont toujours des personnages intéressants pour le roman, justement parce que ils ressentent notre langue, la langue qu'on utilise tous les jours, celle qu'on parle vous et moi, comme une convention, parfois assez arbitraire, enfin même souvent arbitraire, et que on peut donc distordre, mettre à mal, on peut en faire autre chose. Et ça me paraît intéressant. Alors, évidemment, si c'est à chaque ligne, le texte devient illisible, c'est-à-dire qu'on se trouve comme face à une langue étrangère que le lecteur doit déchiffrer. Et ça m'intéresse pas. Je trouve que ça relève du formalisme. Bon, il y a eu des tentatives dans ce sens qui ont été faites en littérature. La plus connue est probablement celle de Joyce dans Finnegan's Wake, où le jeu de mots, le calembour, le néologisme sont permanents, c'est à chaque ligne. Mais ça donne un texte qui est, dans l'ensemble, illisible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la trouvaille ponctuelle qui va permettre justement, par intervalle, de réveiller un peu le lecteur et de lui faire prendre conscience qu'on est dans un roman, donc ça ne va pas être la langue la plus plate qui soit.
Très bien, merci beaucoup. J'avais une dernière question tout de même à vous poser. parce que ça m'intrigue, un premier livre comme ça, aussi ambitieux, aussi épais. J'ai tout de suite envie de savoir sur quoi vous travaillez actuellement comme fiction.
Ah, alors il y a plusieurs projets qui se battent un peu dans ma tête. J'ai pas encore décidé, donc je suis plutôt en recherche de sujets que véritablement dans l'écriture ou dans le travail sur un nouveau projet. Je pense en tout cas que ce sera quelque chose de très différent, parce que ce qui m'intéresse moi dans le roman, c'est justement la curiosité insatiable que le genre permet, se tourner se saisir de genres différents et les transformer, se saisir de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Dans une société où tout le monde est spécialiste, moi j'aime bien ce côté généraliste que peut avoir le romancier. Et voilà, mais ça prendra sans doute un peu de temps, parce que je pense que la lenteur est quelque chose, est un luxe, un luxe que le romancier doit savoir conserver pour lutter un peu contre le tempo médiatique, et que généralement la lenteur fait plutôt du bien à la littérature.
Eh bien, merci beaucoup Vincent Message d'avoir bien voulu répondre à mes questions en direct par téléphone.
Merci à vous Dominique Jandré.